Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Nous sommes très heureux de vous retrouver cette semaine, comme tout au long du mois, avec Marie qui défait les nœuds. Vous nous retrouvez tous les dimanches de 17h30 à 18h sur Radio Courtoisie et nous vous remercions de votre fidélité. Alors Justina, notre spécialiste en théologie, notre amie orthodoxe polyglotte, la Bible rend le discernement inévitable, dites-vous. Bon, comme toujours, j'ai hâte d'écouter votre développement. Bonjour Justina.
Bonjour.
Alors, nous avons la chance cette semaine d'accueillir Gisèle. Bonjour Gisèle.
Bonjour.
Qui nous racontera comment elle a été délivrée, notamment grâce à la prière à Marie qui défait les nœuds. Et voilà, tout ce qu'il en a découlé. Alors, commençons cette semaine avec vous, Justina. Dites-nous, la Bible rend le discernement inévitable, oui, mais...
Oui, avant tout... nous sommes le 21 janvier et comme durant le mois de février, nous allons avoir un cycle apologétique. J'aimerais commencer à préparer le terrain. Et oui. Pour que cela se fasse, je pense qu'il est nécessaire de partager avec vous quelques notions et idées qui vont vous aider à nous comprendre par la suite. Ceci donc un petit cycle préparatoire avant de faire de l'apologie à l'état brut. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler notre méthode de la lecture de la Sainte Écriture, car c'est bien sympathique de citer les versets, mais il faut savoir qu'il ne suffit pas de les citer et que nous avons inévitablement une méthode de lecture et une culture de la citation. J'aimerais déjà dire une chose qui peut paraître étrange. La théologie est un système qui sert à freiner notre pensée, souvent chaotique, quand nous nous retrouvons face au texte sacré.
Alors une question s'il vous plaît Justina, pourquoi dites-vous cela? En quoi elle freine nos pensées?
Toute méthode vise à contenir et freiner notre imagination parfois débordante. Donc oui, la théologie est là pour freiner la débauche intellectuelle dont l'humain est capable. Et on est là pour essayer de comprendre ce que dit le texte et ne pas lui faire dire ce qu'on veut. C'est bien pour cela que je vais démontrer que l'affirmation que la foi chrétienne est aveugle et qu'elle ne demande pas que de l'obéissance et le sans discernement, c'est une affirmation totalement fausse. À partir du moment où nous avons face à nous un livre qui est une compilation de plusieurs livres écrits par des auteurs différents qui ont vécu éparpillés sur un millénaire d'années, je pense que ceci doit être perçu comme une invitation à la réflexion. Second aspect, c'est que notre Bible, Biblos en grec, ça veut dire livre au pluriel, est composée de deux compilations majeures, l'Ancien Testament, Tanakh en hébreu, et le Nouveau Testament. Et par conséquent, deux questions se posent. Comment prioriser entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Car même s'il est facile de dire que le Nouveau Testament est généralement prioritaire pour les chrétiens, il faudrait tout de même se demander s'il reste quelque chose d'actuel pour nous dans l'Ancien Testament. Car si ce n'était pas important, on ne le garderait pas dans notre Bible.
Oui, mais est-ce qu'on peut dire que même tout repose sur l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament est la continuité et ils correspondent et sont l'alliance avec l'Ancien Testament?
En effet, le Nouveau Testament n'existe que dans le paradigme donné et présupposé par l'Ancien Testament, mais il y a des apports non écrits qui sont aussi issus de la tradition vétérotestamentaire. Rappelez-vous notre émission sur les pharisiens.
Oui.
J'espère que ce n'est une nouvelle pour personne ici, que la Bible n'est pas tombée du ciel. Mais c'est un document interne, compilé par l'Église et pour l'Église. La Bible est une compilation. Pour l'Ancien Testament, on reprend la compilation faite par nos prédécesseurs dans la foi, c'est-à-dire les Juifs, et pas n'importe laquelle, c'est la Septante. Pour faire une histoire très brève, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, la Septante est une traduction faite par 70 sages juifs au 3e siècle avant Jésus-Christ pour les Juifs de la diaspora qui ne comprenaient plus l'hébreu. Et elle est beaucoup plus ancienne que le texte hébreu aujourd'hui qui est utilisé en synagogue ou qui est utilisé partout, puisque le texte massorétique date, la rédaction finale en fait, elle date du 8e, 9e siècle après Jésus-Christ. Donc quelque part, nous nous retrouvons avec une traduction, certes une traduction, mais plus ancienne que l'original. Donc déjà pareil, on est obligé de réfléchir. Et surtout les retrouvailles de la mère morte de Qumran... confirme plutôt l'autorité de la Septante. Ensuite, pour le Nouveau Testament, premièrement, je rappelle qu'à aucun moment Jésus ne demande aux apôtres d'écrire des nouveaux textes sacrés. Quand il dit « étudier les Écritures puisqu'elles parlent de moi », il parle du Tanakh. Les écrits qui font partie du Nouveau Testament aujourd'hui ne sont qu'une fixation écrite d'une certaine tradition orale ecclésiale. Et on finit toujours par laisser des écrits quand on en a marre de se répéter oralement. Je suis la première à le dire. Donc, les auteurs des livres du Nouveau Testament ne savaient pas que leur courrier, pour la plupart du temps, va finir compilé dans un texte qu'on va appeler sacré. La plupart de ces écrits datent du 1er siècle, mis à part le corpus de Jean qui date du début du 2e siècle. L'Église fait un tri naturel, je dirais, assez rapidement, par nécessité face au gnostique. Enfin, je fais une mise en situation. Imaginez France, nous sommes au 2e siècle.
Oui.
Et je viens vous voir, vous êtes dans une communauté, admettons, à Corinthe.
Mm-hmm.
Je viens vous voir et je dis, vous savez, moi aussi je suis chrétienne. Qu'est-ce que vous lisez chez vous? Les deux épîtres aux Corinthiens, voire les trois parce que le tout premier est perdu. Mais vous savez, j'ai un autre évangile, écrit par, Saint Thomas. Ça vous intéresse? Et on commence à lire l'évangile de Thomas.
Mmh.
Et vous, et toute la communauté de Corinthe reste scotchée, parce que l'image de Jésus dedans ne correspond absolument pas au Jésus qui vous a été proclamé et enseigné par l'apôtre Paul même qui a fondé votre communauté. Donc la première tentative de compiler d'ailleurs le Nouveau Testament appartient aux gnostiques. C'est le fameux Diatessaron de Marcion. Et en même temps, les pères de l'Église primitive mentionnent des écrits qu'ils perçoivent comme correspondant à la tradition apostolique orale. Et c'est ici que nous voyons les premières listes des écrits chez Saint Irénée de Lyon, Saint Polycarpe de Smyrne, Ignace d'Antioche. Donc les trois, c'est vraiment soit des disciples directs des apôtres, soit, on va dire, les petits-enfants des apôtres.
Mmh.
Un petit peu plus tard, nous avons Origène aussi qui fait une liste de ce qui est reconnu dans l'Église à son époque. Le premier concile qui fixe le canon biblique s'est fait en Laodicée en 360.
Mmh.
Et le canon tel qu'on le connaît aujourd'hui, enfin pas dans toutes les églises mais dans la plupart, date du 491 et du concile de Rome. En réalité, 93. En fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est juste que le livre de l'Apocalypse a fini par être accepté.
Donc, la Bible est un document interne fait par l'Église et pour l'Église, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Sinon, ce n'est même pas la peine. Je ferai une comparaison un petit peu plus tard. Mais je vais encore rajouter de la complexité dans la lecture des Écritures. De plus, nous lisons les traductions, et la traduction est toujours une adaptation à la langue et à sa matrice culturelle. Je n'oublierai jamais la difficulté des traducteurs quand ils devraient traduire des moments clés de l'écriture et qu'il n'y avait pas de mots nécessaires dans la langue de la traduction.
Bien sûr.
Je prends un exemple lors de la mission russe auprès des Yakouts, donc c'est un peuple turc, enfin sibérien près des Esquimaux. Ils n'ont pas de mots pour aussi désigner une croix.
Oui.
On a cherché des équivalents, ne serait-ce qu'un croisement de route. C'est bête, ils n'ont pas de route, elles ne se croisent pas. Donc c'était extrêmement compliqué, je ne connais pas la situation, enfin la solution qui a été trouvée.
Mm-hmm.
Pour le mandarin, en tout cas, j'ai entendu parler que dans les phrases comme « je suis le pain de la vie », on a traduit comme « je suis le riz de la vie », puisque les Chinois ne mangent pas de
pain.
Pour les aléoutes, c'était le cas du poisson.
Mm-hmm.
Puisque pareil, ils ne connaissent pas de pain, ils ne connaissent pas de l'agriculture. J'ai même entendu parler du phoque de la vie pour des Esquimaux.
Ah oui.
Voilà. D'accord. En plus, je rappelle qu'il y a des divergences des copies initiales en grec
qui ne
changent pas le message essentiel à propos du Christ ni de ce qu'il est, mais en fonction de la manière de les lire, on peut déduire une théologie pastorale totalement différente.
Mmh.
Un exemple très important, je trouve, c'est le verbe hypirotes ou hypirotein qui serait traduit, je dirais, en fonction de la confession du traducteur et peut-être en fonction du dialecte. Je rappelle que le Nouveau Testament est écrit en grec koiné.
Oui.
Le grec koiné, c'est un petit peu comme l'anglais des messieurs qui vivent en Inde qui vous font des tutoriels 3D. Donc, c'est pas l'anglais de Shakespeare, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans le grec koiné, le verbe en question, epirotes, signifie demander ou une demande, quand c'est un nom, et pas un engagement. Et quand il s'agit du premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 21, quand les protestants sont très 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 contents de lire ce passage dans les débats avec les catholiques en disant que voilà, on ne peut pas baptiser les bébés puisque le baptême est un engagement de bonne conscience, Oui, si on le traduit à partir de l'accent classique attique grec, c'est un engagement. D'accord. Par contre, si c'est une demande, on peut demander pour l'enfant. Le problème en plus, c'est que dans les évangiles, quand il y a des passages comme « les pharisiens sont allés voir Jésus, ils lui ont demandé », c'est le même verbe qui est utilisé. Et ouais. Là, même les traducteurs protestants ne le traduisent pas comme ils se sont engagés. Les pharisiens n'ont rien promis à Jésus. Mmh. On rajoute encore par-dessus un phénomène, tout lecteur et co-auteur du texte. Selon ses sensibilités, son bagage culturel, son vocabulaire, il n'aura pas la même lecture que son voisin face à un texte dit profane. Mmh. Même si nous parlons de texte sacré et profane, déjà, il y a une difficulté de plus, car tout lecteur face à un texte dit sacré aurait tendance à perdre la volonté d'analyser, soit par piété. Oui. Tout ce que je lis ici, c'est sacré, donc même si je ne comprends pas, ce n'est pas grave. Dieu a dit ainsi, donc c'est à prendre au sens littéral, hallelujah, amen. Soit par la volonté de trouver la petite bête qui va justifier l'athéisme du lecteur. Allez, je vais trouver tous les passages qui me semblent farfelus, choquants, je vais les noter dans une liste et je sortirai ensuite à ma tata Cato lors du dîner de Noël. Et dans cette démarche, pareil, on ne cherche pas à comprendre le texte ni son contexte et on ne veut pas accepter l'idée que quelque chose peut nous échapper.
Ne serait-ce qu'un moment.
Oui, voilà. Et c'est bien pour cela que nous avons besoin de la théologie et du discernement. D'une part, pour ne pas se mettre en danger nous-mêmes, suite à une lecture trop rapide, d'autre part pour aider les autres à ne pas tomber dedans. Donc si vous croisez quelqu'un qui vous affirme qu'il a non seulement compris intégralement la Bible, et de plus il la suit à la lettre, je vous dis tout de suite, soit cette personne n'a rien compris, soit elle est mal intentionnée. Ouais. Pour l'anecdote, quand je tombe sur des personnes ainsi, je leur cite le Deutéronome 23:14, bon, petit aparté, je cite de mémoire, « Quand tu sortiras de ton campement, tu auras une pioche attachée à ta ceinture pour enterrer tes excréments. » Et donc, du coup, je leur demande « Où est leur pioche ?» Non, pas pour les humilier, mais pour leur indiquer qu'ils suivent une exégèse du texte et pas le texte lui-même. Moi aussi, je fais pareil, je n'ai pas de pioche, j'utilise les toilettes, voilà, et j'en suis consciente. Mais quand on dit qu'on suit uniquement la Bible, faut bien, un moment, ouvrir les yeux sur la réalité, parce qu'à aucun moment, ce commandement n'a été annulé. On n'a pas entendu Jésus-Christ. Vous avez entendu dire que vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens. Avant, vous devriez porter la pioche et maintenant, porter les couches pampers. Non, ça n'est jamais arrivé. Nous avons tous des lunettes de lecture sur le nez. Et c'est qu'en le reconnaissant qu'on peut aller plus loin, se rendre compte du problème est déjà la moitié de la solution. La semaine prochaine, je vais développer l'idée selon laquelle, malgré notre subjectivité humaine, nous avons quand même le droit de faire de la théologie.
Bon, ben, ce fut du grand Justina aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Donc, vous défendrez ce droit à la théologie. Écoutons à présent, puisque nous sommes toujours dans la période où nous le chantons, l'Alma Redemptoris Mater, la version chantée par le chœur des moines de l'abbaye de Solem, tirée de l'album immortel grégorien Ave Maria.
Yeah. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors bonjour Gisèle, merci de venir témoigner aujourd'hui de ce que vous avez vécu. C'est très particulier ce dont nous allons parler aujourd'hui, je dirais même presque tabou. Nous n'imaginons pas pourquoi certaines choses peuvent arriver et combien le ciel est puissant pour dénouer tout cela. Alors Gisèle, vous êtes auteure de nombreux livres, vous avez écrit des livrets de rosaire, des chemins de croix et notamment des méditations pour nous aider à prier le rosaire. Vous pouvez trouver, chers auditeurs, sur la librairie en ligne de notre site mariedenazareth.com, le rosaire de la Vierge Marie en l'honneur du Saint-Pape Jean-Paul II. Vous êtes aussi très proche du père James Manjacal, qui a été nommé missionnaire de Saint-François de Sales, qui est missionnaire de Saint-François de Sales et qui a été nommé missionnaire de la miséricorde par le pape François en avril 2015. J'espère que vous viendrez prochainement nous parler de lui, peut-être lors de l'une de ses visites. Il aime beaucoup la Vierge Marie et peut-être même accepterait-il de venir nous en parler.
Oui, je pense qu'il acceptera très volontiers parce que la Vierge Marie a une place très importante dans sa vie.
Oui.
Et moi, très volontiers, oui, j'accepterai, bien sûr.
Nous prendrons date alors. Merci beaucoup. Alors, revenons à notre sujet. Je vous ai invité parce que vous avez été délivrée grâce à la neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Donc, merci vraiment de témoigner. Ce qui est intéressant et très important à dire, c'est que vous n'aviez pas conscience que vous aviez un problème et une de vos amies vous a aidé à être clairvoyante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, s'il vous plaît?
Oui, alors effectivement, je m'en suis rendu compte que 3 ans et demi après, grâce à une neuvaine à Marie qui défait les nœuds, c'est une amie psychologue chrétienne qui m'en a fait part. Et en toute amitié, elle m'a fait comprendre que j'avais changé de comportement. Je devenais agressive, irritable, qui selon elle ne va pas du tout avec ma vie spirituelle. Et elle me propose de faire cette neuvaine à Marie qui défait les nœuds, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et dès le 3e jour, j'ai eu un signe qui m'a permis de comprendre des choses pas très normales.
Par exemple?
Alors mon amie m'a pris, par exemple, ce que j'ai vu, j'ai eu j'ai vu des choses qui n'étaient pas...
Ajustées.
Oui, voilà, qui n'avaient rien à voir dans le bureau, là où j'étais, où je travaillais.
D'accord.
Voilà.
Et donc, votre amie a fait quelque chose pour vous?
Oui, alors donc, je lui en ai parlé de ce que j'ai vu, ce que j'ai compris. Et elle a pris un rendez-vous avec un prêtre qui a prié pour moi. Et elle a fait de très longues prières. Et j'ai retrouvé mon calme. Je me suis sentie vraiment libérée et complètement différente.
Oui.
Et j'en revenais pas d'ailleurs de ce changement.
Oui.
Voilà. Et à ma grande surprise, j'ai vu aussi des collègues qui sont revenus vers moi, s'étonnant de ne pas me voir beaucoup. Et un peu plus tard, avec le recul, on comprend que dans ces situations, ce mal est tellement puissant que les autres vous rejettent, sans doute inconsciemment, je le pense même, et ils s'en rendent pas compte. Et ils peuvent même s'imaginer le contraire, que c'est vous qui les rejetez, voilà. Donc il y a eu un changement évident de moi-même et de tout mon entourage.
Alors pour préciser un petit peu ce qui vous est arrivé, en fait, on vous a jeté un sort.
Oui.
Ben... L'occultisme est très présent de nos jours, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et en fait, en France, nous n'avons pas forcément conscience que nous pouvons en être affectés. Pourtant, bon, voilà, il y a des populations qui vivent dans notre pays et qui l'utilisent. C'est quand même très présent et il ne faut pas hésiter à en parler à un prêtre. Je dirais qu'il connaît le sujet, parce qu'on n'en parle pas tant que ça, quand même.
Non, tous les prêtres ne sont pas formés, bien qu'ils ont le pouvoir de le faire.
Oui.
Mais bon, voilà. Et alors, pour revenir à ce que vous disiez, bien sûr, je pensais aussi que ces choses n'existaient pas, n'existaient que dans nos îles françaises, d'où je viens, et, ou en Afrique.
Oui.
D'ailleurs, lorsque je suis venue pour m'installer en métropole, dans l'avion, j'avais 22 ans, un peu naïve, et pour trouver consolation de tout quitter, je me disais, au moins ici, il n'y aura pas toutes ces choses de sorcellerie.
Oui.
Je vais être tranquille, je vais être très bien. Ah. En définitive, ce fut mon quotidien.
Ah oui. Et donc, vous avez vu de drôles de choses. Racontez-nous. Peut-être que, par votre témoignage, les gens vont se rendre compte que peut-être eux aussi souffrent d'un sort.
Oui, parce qu'en fait, beaucoup, on ne se rend pas compte au départ. Comme je vous disais, je m'en suis rendu compte que 3 ans et demi après. Donc, je vais vous donner quelques signes que j'ai vus, pu constater. Un jour, une de mes collègues avait voulu emprunter ma bouilloire pour se faire un thé.
Oui.
Et en ouvrant pour voir s'il y avait encore de l'eau, elle voit une poudre marron qui flottait sur l'eau.
Oui.
Elle s'en étonne, et moi aussi d'ailleurs, puisque je venais juste de la laver et la remplir, donc c'était tout chaud. Alors on constatera après, toutes les deux, qu'il y avait un peu de poudre sèche à certains endroits. Donc manifestement, cette poudre a été mise après que l'eau ait bouilli.
D'accord. Donc, c'était quelqu'un de très proche.
Absolument, oui, de toute évidence. Et dans un petit temps, un laps de temps, j'ai dû m'absenter, effectivement, du bureau pour peut-être des photocopies. Voilà. Donc, ça, c'était une première chose. Et une deuxième chose, un soir où je rangeais des papiers dans mon sous-main, je vois une petite pincée de poudre marron.
Toujours
encore
cette
une
poudre
petite
marron,
voilà. Qui, de toute évidence, venait d'être posée. Et évidemment, j'ai eu une réaction me demandant ce que c'était. Et au même moment où un jeune homme qui faisait le ménage s'approchait de mon bureau pour récupérer ma poubelle, et il a instinctivement regardé et il m'a pris le sous-main des mains. Il m'a dit « Mais madame, il faut jeter ça, il ne faut pas garder ça. »
Ah oui, il connaissait.
Et voilà, apparemment, il connaissait ce que c'était. Et voilà, donc mon sommeil a disparu et les symptômes que j'avais aussi d'ailleurs ont disparu.
C'est incroyable.
Et voilà, ceci explique pourquoi très souvent je me retrouvais fréquemment la tête dans les mains.
Oui.
J'avais comme si ça me serrait. Comme un cerf qui me serrait la tête, là.
Oui.
Et j'essayais, avec mes mains, j'essayais de trouver soulagement. Mais en réalité, ma tête et mon visage étaient en direct sur le mal.
Oui, c'est ça.
Donc, il n'y avait jamais de soulagement.
Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup, Gisèle. Pour terminer, que pouvez-vous dire à nos auditeurs pour les aider si eux-mêmes sont confrontés à une situation similaire ?
Alors, bien sûr, dès qu'on n'est pas bien, on doit consulter un médecin. Mais il faut aussi se tourner vers la Vierge Marie, qui est notre Sainte Mère,
hein,
puisque Jésus nous l'a donnée. Et avant, il nous a montré la puissance de sa prière à Cana.
Oui.
Très clairement, par ma neuvaine à Marie qui défait les nœuds, Marie a débloqué ce qui m'empêchait de comprendre l'origine de mes problèmes.
Oui.
Puis, évidemment, elle a continué, j'en suis sûre, de m'accompagner en mettant sur ma route les personnes qu'il fallait pour m'aider, et notamment des prêtres qui pouvaient, par leur ministère de libération, prier pour moi et me libérer de tous ces problèmes. Voilà.
D'accord.
Et alors, ce qui est merveilleux, c'est la joie de retrouver sa vraie personnalité après un ministère de libération, revoir ses collègues, des amis revenir avec affection, avec compassion, parce que quelque part, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose, mais ils ne savent pas très bien. Ils ne savent pas très bien. Voilà. Ce sont des choses que l'on ne peut pas raconter ni confier, car le mal est tellement puissant. Est puissant de telle manière que les proches ne comprennent pas et ne peuvent pas vous aider.
Oui.
Donc vous êtes quasiment seul. Voilà, je pense que tout est fait pour cela.
Oui. Hein? Oui. Si je comprends bien, on peut se poser des questions sur votre comportement et se dire bon, elle est folle ou alors.
Oui, voilà. Pourquoi elle a changé
Oui. Oui. Donc, je crois que spirituellement, cette épreuve vous a beaucoup rapproché de la Vierge Marie.
Tout à fait, oui, tout à fait. Finalement, tout est grâce.
Oui.
J'ai passé des moments très durs, mais grâce à ces moments-là, j'ai pu me rapprocher de la Vierge Marie et de Jésus.
Oui.
Et voilà, de prier davantage et...
Voilà, de pouvoir maintenant être libérée.
Oui.
Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Donc, vous invitez les gens à aller voir un prêtre. Dites-moi, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, je disais que peut-être que l'écriture des rosaires vient aussi de ces souffrances que j'ai vécues.
Oui.
Parce que dans cette écriture, dans ces prières, j'essaye de faire passer, de donner aux gens l'amour de la prière. Parce que sans la prière, on ne peut pas faire grand-chose.
Oui. Merci beaucoup, voilà. Gisèle. Merci. Je vous remercie vraiment d'avoir témoigné parce que je ne doute pas que certaines personnes se retrouveront n'imaginant même pas que cela puisse leur arriver. Donc, merci beaucoup. Lorsque nous préparions cette émission, Vous avez dit quelque chose de très joli qui m'a beaucoup touchée. Vous m'avez dit, si on s'en remet à Dieu, il remportera sa victoire.
Absolument.
Merci beaucoup.
Et j'en ai fait l'expérience maintes fois.
Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, que vous avez encore une semaine pour aller voir le spectacle Essentiel. Nul n'est censé ignorer la foi au Théâtre Saint-Léon à Paris, tous les soirs à 20h. N'oubliez pas, et là je m'adresse aux prêtres, aux religieux et religieuses, l'entrée vous est offerte. Donc vous arrivez, vous dites que vous êtes prêtre et vous entrez. Vous pouvez réserver sur HelloAsso votre place, spectacle essentiel, ciel comme les cieux. Merci beaucoup, bonne semaine à tous, bon dimanche.